Bonsoir, bonsoir et merci à vous qui êtes ce soir au Centre Sèvres pour ce mardi d'éthique publique consacré à la question Proche-Orient 2018, l'année de tous les dangers. Bonsoir également à ceux qui nous suivent dans des groupes en province et à l'étranger. Et bonsoir également aux auditeurs de RCF qui écoutent cette rencontre des mardis d'éthique publique. En ce début d'année 2018, les troubles qui ont éclaté en Iran sont venus ajouter une source d'incertitude supplémentaire à tous les conflits qui agite déjà le Proche et le Moyen-Orient. Dans un livre consacré à la fin de la Première Guerre mondiale dans la région, l'historien David Frumkin avait évoqué, à propos des traités signés à l'époque, une paix qui a mis fin à toutes les paix. De fait, 100 ans plus tard, l'observateur ne sait par où commencer la liste des violences qui accablent cette partie du monde. Guerre civile en Syrie, avec son lot d'atrocités et ses millions de réfugiés, guerre au Yémen, menée par un jeune prince saoudien dont la pointe de fer s'abat sur son pays, en dépit des apparences parfois trompeuses, transfert en Israël de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, avec le risque de voir éclater une nouvelle intifada, tentation hégémonique du dirigeant turc Erdogan, qui se verrait bien en leader de l'ensemble du monde musulman. À cela s'ajoute les menées des grandes puissances, elles sont claires du côté de Vladimir Poutine, qui n'a nulle intention de voir la Russie quitter une Syrie où elle a eu tant de mal à s'installer. Elles sont plus indéchiffrables du côté de Donald Trump, sinon qu'il est le jouet de multiples lobbies, y compris dans sa propre famille. Et puis se pose la question de l'avenir des communautés chrétiennes dans les territoires où a été porté, à ses tout débuts, le message de Jésus-Christ. Les mois qui viennent seront-ils ceux d'un embrasement généralisé, du Yémen à Jérusalem et à la Syrie, ou des possibilités de règlement de tous ces conflits vont-elles enfin se faire jour? Pour nous informer, tant les médias sont souvent incomplets sur ce point, pour nous aider ensuite à discerner les enjeux en présence, et enfin pour permettre un approfondissement de notre réflexion, les mardis d'éthique publique ont le plaisir d'accueillir ce soir Joseph Maïla, professeur de relations internationales à l'ESSEC, spécialiste du Moyen-Orient et de la sociologie des conflits, et ancien directeur de la prospective au ministère français des Affaires étrangères. Et Monseigneur Marc Stinger, évêque de Troyes et président de Pax Christi pour la France. C'est Joseph Maïla qui nous apporte les premières réponses à la question posée.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Jean-Luc Coutier. Mesdames et messieurs, je suis extrêmement heureux d'être parmi vous ce soir dans ce beau Centre Sèvres qui m'est familier et que je retrouve toujours avec plaisir. Tous mes vœux pour cette année et je me sens d'autant plus enthousiaste pour commencer cette conférence que j'ai appris, Jean-Luc, que les applaudissements étaient acquis d'avance. Donc là, je me sens porté. Alors, mesdames et messieurs, la question qui a été posée et qui n'est pas la mienne, qui est celle du père EV, et qui consiste à se poser la question de savoir Proche-Orient 2018, l'année de tous les dangers, n'est même pas une question. Il n'y a pas de point d'interrogation. Donc, le père EV était certain que cette année 2018 serait une année extrêmement grave. Alors, on va nuancer le diagnostic, ne serait-ce que pour avoir quelques raisons d'espérer. Mais effectivement, la situation est bien sombre. Alors, comment entamer une présentation? Déjà, Jean-Luc nous a mis sur la voie. Comment entamer une présentation qui soit à la fois, qui fasse ressortir le bilan, parce que nous revenons de trois années exactement, extrêmement difficiles, et que nous entamons une année dans laquelle, et c'est là où je serai très nuancé, beaucoup de choses se sont passées, des guerres se sont terminées, une paix ou des accords de paix sont possibles, mais la violence est là et elle est présente. Alors dans un premier temps, j'essaierai de faire le bilan de ce qui s'est passé dans cette région. Et j'adhère tout de suite à au diagnostic de Jean-Luc Poutier qui disait, on dit d'habitude une guerre pour arrêter toutes les guerres, c'est une paix pour arrêter toutes les paix. C'est vrai qu'on n'a jamais en 100 ans d'existence du nouveau Moyen-Orient. Le Moyen-Orient, comme vous savez, est issu des décombres du démantèlement de l'Empire ottoman, le Proche-Orient en tout cas plus particulièrement, et cette situation avait perturbé vaille que vaille avec des crises importantes, notamment celle qui continue à perdurer et qui est le grand conflit israélo-arabe, le plus ancien des conflits auxquels nous avons à faire face aujourd'hui après la fin du conflit irlandais et qui n'a pas de fin prévisible, en tout cas pour ce qui nous concerne et pour les deux ou trois années à venir. Et donc des années de violence qui ont véritablement bouleversé la cartographie politique du Moyen-Orient. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre 2014 et 2017 qui nous permet, bien entendu, aujourd'hui de rebondir pour essayer de voir où nous allons? Il s'est passé d'abord sur un arrière-fond de printemps arabe. Vous savez, ces révoltes qui, pour la première fois dans cette région du monde, remettent en question les autoritarismes, et ça va du Maroc à l'Iran. J'inclus l'Iran, bien que l'Iran soit en train de nous rejoindre récemment, et que en 2009, effectivement, il y a eu quelques exactions, mais quelques révoltes, quelques soulèvements, mais à partir de 2011, les printemps arabes ébranlent l'ensemble du monde arabe. Et ces printemps arabes peuvent avoir connu des moments de réussite. On voit par exemple la transition au Maroc qui s'est bien passée, la Tunisie qui s'en est sortie, la Libye qui s'est écroulée, l'Égypte qui a disparu dans les affres de la guerre civile, et puis avec le maréchal Sissi qui tant bien que mal essaye de se relever, et puis bien entendu la Syrie qui a été touchée au mois de mars 2011 par ces printemps arabes avec la répression terrible du président Al-Assad, et qui continue, et aujourd'hui Assad est sur la voie de retrouver un siège ou un fauteuil vacillant, et en même temps n'être pas sûr, mais grâce à l'appui des Russes et des Iraniens, n'être pas sûr de pouvoir le garder pour longtemps. Donc ce sont 4 années terribles qui se sont déroulées entre 2014 et 2017. La première, la première conséquence, c'est la dislocation de la Syrie, la guerre civile en Syrie, avec un éclatement absolument effrayant, 350 000, 400 000 morts, on ne les compte plus, avec des déplacés, des réfugiés, 6 millions de réfugiés, 12 millions de déplacés internes, et un État qui vacille, mais qui ne tombe pas, parce que dans une certaine mesure, le noyau dur du pouvoir syrien s'est maintenu en place, avec une région qui est plus ou moins la région qui va de Latakia en passant par Homs, Hama, et qui arrive en Syrie jusqu'aux abords du Golan, et qui serait considérée par certains cartographes cyniques comme étant la Syrie utile, qui s'est maintenue en place. Mais bien entendu, tout l'est de la Syrie a échappé pendant longtemps au pouvoir syrien. La ville d'Alep a fait l'objet d'une contestation au centre ou au nord-est de la Syrie, a fait l'objet d'une contestation inouïe, incroyable. Le sud de la Syrie est plus ou moins bien contrôlé aujourd'hui, avec la défaite dans tout cela de l'État islamique et surtout d'Al-Qaïda, qui était présente sous la forme d'une organisation qu'on appelle le Front al-Nusra. Mais une guerre absolument incroyable qui démantèle la Syrie, qui ébranle le pouvoir qui était jusque-là le pouvoir le plus fort dans la région après la marginalisation de l'Égypte, après Camp David, l'Égypte a joué de moins en moins un rôle important dans la région, après la disparition de l'Irak de Saddam Hussein, la Syrie constituait le fer de lance du monde arabe dans cette région. Elle se disloque dans une guerre absolument atroce, et aujourd'hui on verra la situation d'une Syrie qui est en une espèce de une peau de chagrin pour le pouvoir, mais en même temps une peau de léopard pour le pouvoir aussi, puisqu'on verra que des zones entières échappent au pouvoir. Dans le nord, les Kurdes se sont autonomisés, dans le sud, dans le Djebel Druze, le contrôle n'est pas tout à fait celui du gouvernement, les Russes se sont installés durablement dans la région et dans le pays, et estiment qu'ils ont une base à préserver sur laquelle on reviendra, qui est la base de Tartous, qui est un grand port qu'ils ont élargi et qui peut accueillir des navires, une douzaine de navires de plus ou moins grand tonnage. Donc les Russes sont intervenus à partir du mois d'août 2015, septembre 2015, pour assurer le pouvoir vacillant du président el-Assad et de maintenir un point qui leur est important du point de vue stratégique. Deuxième pays qui éclate et qui explose, alors qu'on le pensait sur la voie de la restauration de son autorité, c'est l'Irak, vous vous souvenez, qui avait été déstabilisé par l'invasion américaine, américano-anglaise, en dépit du Conseil de sécurité, en dépit de l'ONU. Le président Bush fils avait fait cette guerre, et le président Obama s'était en quelque sorte attelé à penser la sortie des États-Unis de cette région, donc dans les années 2011-2012, et voilà qu'arrive le pouvoir qui va s'installer dans cette région et qui va disloquer l'Irak en train de se restaurer. Le 29 juin 2014 monte en chaire à Mossoul le fameux Abou Bakr el-Baghdadi qui proclame la naissance du califat islamique. Le califat est une institution qui a perduré de la mort de Mahomet, c'est-à-dire des successeurs de Mahomet, le calife étant le successeur de Mahomet, qui est décédé en 632, donc qui a perduré de 632 à 1924, le 3 mars 1924, les Turcs, sous la férule de la Grande Assemblée nationale turque, sous la direction du président d'alors, du général sauveur de la Turquie moderne, Mustafa Kemal Atatürk, proclame la fin du califat. Donc il n'y a plus de calife en principe depuis 1924. Alors la généalogie est bien entendu fictive, hein, parce qu'il a fallu passer par plusieurs califats, les Omayyades, les Abbasides, et ensuite les Ottomans, successeurs de califats qui étaient arabes, alors que les Ottomans, comme leur nom l'indique, sont les Bani Osman, qui viennent des steppes de l'Asie et qui se sont installés au Proche-Orient après la conquête de Jérusalem de Constantinople en 1453, le 29 mai 1453. Et voilà donc qu'un nouvel État surgit, une nouvelle organisation dite État islamique, qui prend le relais d'Al-Qaïda, qui a une philosophie différente sur laquelle on pourra revenir dans le débat, et qui démantèle véritablement l'État irakien, qui s'effondre d'un seul coup. Mossoul, la deuxième ville d'Irak, est prise, et avec elle est prise la banque centrale d'Irak, et des dépôts d'armes absolument extraordinaires qui vont faire le début de la fortune de l'organisation dite État islamique. Et pour rejoindre ce que disait tout à l'heure Jean-Luc Poutier, la première des choses que fait Abou Bakr el-Baghdadi, c'est véritablement d'envoyer cette troupe à la conquête de la Syrie voisine et d'effacer la fameuse frontière syro-irakienne qui avait été mise en place depuis les accords entre les Français et les Anglais. Il y a un bel article d'étude du mois de mai 2016 sur les accords Sykes-Picot qui ont été signés en mai 2016. Ça nous fait exactement 100 ans. Et la première des choses que fait Abou Bakr el-Baghdadi, c'est de faire un petit rappel en disant « Monsieur George Sykes et François Georges Picot, j'ai aboli vos desseins. » Il s'agissait, dans l'esprit d'Abou Bakr el-Baghdadi, de refaire la frontière. Ce que les colonialistes, les impérialistes, qui étaient les mandataires de la SDN puis des Nations Unies dans cette région avaient fait, nous allons le démanteler et nous allons réunifier tout cela sous la férule du calife, autoproclamé bien sûr et reconnu par personne, surtout pas par les Saoudiens, surtout pas par les Jordaniens, qui bien entendu ne se reconnaissent pas dans cette prise de pouvoir théologique, si j'ose dire. Une troisième guerre, qui est toujours la guerre qui s'inscrit dans le printemps arabe en 2011, le Yémen, là aussi est saisi de convulsions. Le pouvoir est contesté et dans le nord du Yémen, dans la région nord du Yémen contiguë, nord-ouest du Yémen contiguë à l'Arabie Saoudite, les houthistes, hein, dont le nom paraît un petit peu bizarre, mais leur nom vient de leur chef, les, donc une famille, et donc le frère aîné avait été assassiné, la famille prend la relève, et le Yémen n'a jamais été tout à fait un État qui est arrivé à penser son unité. Il est toujours tiraillé par des tensions entre un Sud autonome et un Nord qui se rêvait un petit peu sur le mode du royaume qui avait précédé l'unification du Yémen ensuite à l'époque entre Sanaa et Aden. Et donc le Yémen est en proie à toutes sortes de complications, et c'est cette guerre qui dure depuis 2011 et qui va voir venir doucement mais sûrement l'intrusion des Saoudiens qui veulent essayer d'étouffer cette révolte qui va du nord vers le sud, qui s'arrête à la bataille de Sanaa qui est juste au sud. Et donc aujourd'hui le Yémen est divisé au nord, au sud vous avez le gouvernement fidèle à Abou Mansour Abd Rabbo et qui est Hadi et qui est toujours en place, et puis le nord qui est houthiste, et la bataille continue avec une situation humanitaire épouvantable dans la région de la mer Rouge, puisque les Émiratis, les Saoudiens établissent un blocus dans une région où les gens meurent de faim, où les médicaments n'arrivent pas et où le choléra est en place. Et les Nations Unies ont alerté en disant c'est une situation humanitaire jamais vue. Voilà, donc voilà un Proche-Orient qui se démantèle avec beaucoup de questions qui se poseront, mais à partir de trois grands conflits. Ça ne veut pas dire que tout le reste est en paix. Le conflit israélo-arabe sur lequel on reviendra, rien n'est résolu. Le pouvoir au Liban est un pouvoir bancal où se retrouve finalement en position de force un gouvernement sous la présidence du général chrétien Michel Aoun, mais dont les ressorts, les leviers sont détenus par le Hezbollah, qui va jouer un rôle absolument extraordinaire dans la guerre de Syrie, puisqu'il va être l'armée de supplétifs, en quelque sorte, que les Iraniens et que les Syriens vont utiliser pour conforter leur pouvoir, notamment sur la frontière de l'anti-Liban, c'est-à-dire la frontière entre le Liban et la Syrie. Voilà une situation qui est absolument compliquée, qui déconstruit le Proche-Orient. Parce que on verra que la grande question, c'est comment on reconstruit ce qui a été fait, ce qui continue d'être défait dans la guerre. Alors le bilan de tout cela, le bilan il est absolument épouvantable. C'est un bilan humain d'abord auquel je pense. Dans cette région a eu lieu le premier génocide du XXe siècle, le génocide des Arméniens. 1 million, 1 500 000 Arméniens disparus entre 1899, mais surtout à partir de 1915-1916. On a des massacres qui prennent place. Je ne vais pas parler des massacres de la Syrie, je voudrais parler, attirer plus mon attention sur la situation de l'Irak que connaît bien Monseigneur Stinger, que je salue. Et cette situation, bien entendu, juste après la prise de pouvoir d'Abou Bakr el-Baghdadi en juin 2014, en août 2014, les troupes d'Abou Bakr el-Baghdadi entrent dans la plaine de Ninive, dans la région de Sinjar, et là s'en prennent aux chrétiens qui sont obligés de partir, et le père Stinger nous donnera une photographie de la situation, et bien entendu s'en prennent à cette malheureuse communauté yézidi, 500 000, 600 000 yézidis, qui sont une religion, contrairement à ce que l'on dit, monothéiste, mais avec des restes de zoroastrisme, et Abou Bakr el-Baghdadi et l'État islamique les mettent au banc, c'est-à-dire reviennent à des méthodes barbares, l'exécution de plusieurs milliers d'hommes, et puis 5 000 à 6 000 femmes et jeunes filles sont traitées comme des esclaves sexuels et vendues au marché aux esclaves qui avaient lieu tous les vendredis à Mossoul. Situation absolument de barbarie, absolument épouvantable. Retour de la charia, retour des supplices, des décapitations, des crucifixions qui sont faites où on attache les hommes décapités sur la place de Mossoul, que l'on peut aller, qu'on ne peut pas éviter. Des enfants, et on l'a encore avec les enfants qui reviennent, avec des femmes, notamment françaises, qui ont participé à cette expédition de l'État islamique, des enfants qui, à 9, 10, 11, 12 ans, ont pris l'habitude de tuer. Encore une vidéo qui circule récemment où on voyait un enfant de 9 ans abattre un homme agenouillé devant lui, de derrière dans la nuque. Donc on se demande quel type de socialisation on peut refaire après cela pour reprendre, donner à ses enfants un avenir. Les chrétiens d'Orient, dont le père Stinger parlera aussi bien, sinon mieux que moi, et avec toute la situation aujourd'hui, la précarité, il y avait 1 500 000 chrétiens irakiens en Irak en 2003. Aujourd'hui, dans le meilleur des cas, 500 000, 600 000 pour nous donner un peu d'espoir, mais on est en deçà, un peu moins. Mais c'est vous qui allez apporter les mauvaises nouvelles, mais avec de l'espérance tenaillée qui nous prend au cœur. L'émigration, et ça c'est quand même quelque chose d'absolument incroyable, l'émigration dans cette région et notamment d'émigration de chrétiens, mais il faut dire aussi que l'État islamique a été absolument, n'a pas distingué, hein, un chiite musulman est un apostat pour eux, un chrétien n'en parlons pas, un yézidi c'est hors de situation. Bien entendu l'écrasement, le massacre du patrimoine, y compris celui et surtout celui des églises, la crise humanitaire, et puis un centre, cette région avec Daesh ou l'État islamique devient un centre de terrorisme. Entre 2014 et 2017, on a compté pas moins de 293 attentats qui ont été pensés, financés, dont le Bataclan, qui ont été financés, le massacre du Bataclan, qui ont été financés et pensés à partir de cette région, ce qui va finalement décider, à partir du mois d'août 2015, la mise en place de cette coalition anti-Daesh, venir à bout, 22 nations arabo-occidentales vont se coaliser pour venir à bout de l'État islamique qui s'était installé dans cette région. J'ouvre une parenthèse et je la ferme pour la première fois, moi qui suis politologue, la première fois un mouvement terroriste arrive à s'enraciner, à se territorialiser et très heureusement échoue, mais il a fallu une coalition internationale pour absolument l'éradiquer ou éradiquer les bases de son administration, de ses finances, de ses transferts de fonds, de son économie mafieuse. Tout cela, bien entendu, on s'est réveillé un peu tard, mais heureusement on s'est réveillé pour comprendre effectivement que tout cela était dans la suite de cette destruction de la région. Troisième point, après la présentation, le bilan humain, le bilan stratégique. Le bilan stratégique, c'est celui qui nous permet de réfléchir un petit peu sur les rapports de force régionaux. Les rapports de force régionaux, il y a beaucoup de choses. Je vais commencer par la question qui me paraît la plus importante, bien que elle ne reçoive pas pour le moment toute l'attention qu'elle mérite. On en a beaucoup parlé, on en parle moins, la question des Kurdes. Hein. La question des Kurdes est revenue en force. Et les Kurdes ont été, à la fois se sont autonomisés dans cette guerre où ils ont participé à la lutte contre Daesh, à la demande des Occidentaux notamment. Ils ont tenté un référendum qui était extrêmement difficile à tenir au mois de décembre dernier. Et là, on a vu que tout le monde les avait abandonnés. C'était un référendum tenu dans le Kurdistan irakien pour une espèce de passage de l'autonomie à l'indépendance. Mais la question kurde est posée et elle sera posée pendant longtemps. Les Kurdes, c'est quoi ? On n'a pas les chiffres exacts, 24-28 millions, une population de 28 millions. Les Jordaniens sont 6 millions, les Libanais sont 5 millions, les Israéliens sont 7 millions. Là, vous avez les Syriens sont 22 millions, les Irakiens 25-26. Et là, vous avez une population de 28 millions qui n'a pas d'État. Et effectivement, c'est un des ratés de la décolonisation qui avait été mise en place à partir de 1920. Et les Kurdes n'ont jamais vu leur État surgit et pour leur malheur, ils sont assis sur une nappe de pétrole à cheval entre quatre États dans cette région. On reviendra après. Donc la question ici des Kurdes se pose pour rester en face de nous, sans solution pour le moment. La deuxième, c'est l'arrivée des Russes, avec une force absolument incroyable. L'intervention russe, les Russes reprennent pied dans cette région. C'était les alliés stratégiques de l'Égypte, mais c'était l'Égypte de Nasser. Avec Sadat, on avait tourné la page. Avec l'Égypte avec l'Irak de Saddam Hussein, mais la page avait été tournée. Il y avait des alliances. Il y a toujours une alliance qui est maintenue entre la Russie et la Syrie, et c'est celle-là qui a formellement permis à la Syrie de revenir, à la Russie de revenir en force. Mais la Russie revient dans une situation où les Occidentaux ont disparu, où l'Amérique a décidé de tourner la page. Le président Obama a été élu pour véritablement faire ramener les boys aux États-Unis. Il n'a pas voulu s'engager plus haut dans l'affaire de la Libye. Il se désengage en Afghanistan. Il s'est désengagé en gardant quelques troupes, quelques milliers de soldats pour la formation de l'armée irakienne. Il n'a eu aucune envie de replonger dans le conflit du Moyen-Orient. Et on se souvient, lorsque le président Hollande l'avait pris au mot, le président Obama avait dit « Si la ligne rouge qui consiste à utiliser des bombes chimiques sont là, ben écoutez, moi j'interviendrai. » Et lorsque, en août, je n'ai plus la date, 2013, je crois, la question se pose, le président Obama, sollicité par le président Hollande, dit qu'il n'ira pas dans une nouvelle guerre au Proche-Orient. Donc aujourd'hui, les Russes sont là, et autour des Russes, bien entendu, ceux qui sont les grands gagnants de cette guerre, ce sont les Iraniens, qui se sont installés en Syrie de manière durable, qui s'étaient installés en Irak parce que l'Irak est à 60% chiite, le président de la République Abadi chiite aussi, le pouvoir alaouite en Syrie est dans la mouvance chiite, le Hezbollah n'est pas loin au Liban, et donc là aussi on a un axe chiite, jadis il était appelé croissant, mais c'est devenu un axe. Si vous réfléchissez à la stratégie de l'Iran, elle part de l'Afghanistan pour arriver en Méditerranée. Elle part de l'Afghanistan où il y a 15% de chiites, une tribu qui s'appelle les Hazaras. Elle traverse l'Irak avec 60% de chiites. Elle arrive avec les 10 ou 12% de Alaouites qui tiennent le pays et une présence aujourd'hui du Hezbollah, de l'Iran, en plus de la présence russe. Et elle déboule sur la Méditerranée avec le Sud-Liban qui est le fief par excellence du Hezbollah. Et donc là, c'est une stratégie absolument incroyable qui réussit en quelques années. Si on considère aussi que les Iraniens aident les autistes, là, on a véritablement pris la mesure de cette influence iranienne, qu'il ne faut pas exagérer, mais qui est réelle, qu'il ne faut pas sous-estimer, mais qu'il ne faut pas surestimer non plus, parce qu'on va voir que le pouvoir iranien lui-même, à l'intérieur, n'est pas aussi dur. Mais c'est une victoire incontestable pour des Iraniens qui, aujourd'hui, veulent véritablement voir le bénéfice ou le retour sur investissement qu'ils ont fait dans cette guerre. 2 minutes. Et la Turquie, bien entendu, la Turquie qui a joué un rôle extrêmement bizarre, on n'a pas le temps de rentrer là-dedans, qui voulait absolument que le président Assad sorte et qu'elle discuterait après la sortie du président Assad. Elle s'était alignée sur une position qui n'était pas loin de celle des États-Unis et de celle de la France, qui a perduré un peu de manière intransigeante avant que nous mettions un peu d'eau dans le vin de nos propos, notamment avec l'arrivée du président Macron, les déclarations de M. Le Drian, Assad est l'ennemi de son peuple, notre ennemi est Daesh, donc pour essayer de voir quelle solution nous pourrions faire. À quelle solution nous pouvions aboutir, en sachant que Assad était là et qu'il était soutenu par trois États. Il y a Israël, dont on a parlé, qu'on reparlera, qui lui n'est ni gagnant ni perdant. Il est perdant dans la mesure où il a les Iraniens aujourd'hui à la frontière syrienne, et qui est d'une certaine manière gagnant parce que le champ de ruines de la Syrie aujourd'hui, qui était la seule armée qui pouvait tenir tête à Israël, et encore en 2011, aujourd'hui, la Syrie s'est effondrée du point de vue militaire. Alors, très rapidement, puisqu'il me reste 1 minute, quels sont les chantiers qui sont en face de nous? Le premier, c'est qui va refaire la carte? La carte du Proche-Orient. En 1916, il y avait la France et il y avait l'Angleterre. Et cette carte a perduré, et quoi qu'on dise des accords Sykes-Picot, ils n'étaient pas sans intelligence ni sans équilibre, et je ne vois pas par quoi on aurait pu les remplacer, mais je n'entrerai pas dans ce débat. Mais aujourd'hui, qui va refaire cette carte? Qui va s'installer autour d'une table et va dire, ben écoutez, voilà, les nouveaux rapports de force. On ne voit pas, à part la Russie, on ne voit pas de force étrangère. La France est en train de faire des propositions pour qu'il y ait une conférence, un groupe de contact au niveau régional, une conférence régionale, Je ne sais pas dans quelle mesure la politique de M. Trump sur le Moyen-Orient est établie et dans quelle mesure on pourra un jour convoquer, par exemple, à Genève, une grande conférence pour stabiliser l'ensemble de la région. Hein, parce que les conférences à Genève, il y en a notamment sur la Syrie, mais les Russes se sont arrangés avec les Turcs et les Iraniens pour faire une réunion à Astana, en Asie centrale, pour essayer de voir entre eux comment ils pouvaient eux-mêmes remodeler, refaire la carte. Ils la referont pas tout seuls, mais c'est une tentative assez importante qui est en train d'être faite. Il y a un deuxième point qui m'interpelle beaucoup, c'est que c'est vrai qu'on ne voit que des États, c'est vrai qu'on ne voit que des forces régionales qui sont en train de prendre le dessus, de nouveaux arrivants, d'anciens arrivants, des perdants et des gagnants. Mais les sociétés bougent, les sociétés bougent. La société saoudienne est en train de bouger, il y a de la contestation dans l'air, on reviendra. La société yéménite est en train aussi de se poser des questions, elle se posait des questions avec les houthistes. Malheureusement, aujourd'hui, elle est radicalisée et fragmentée, mais au départ, il y avait de vraies questions sur le pouvoir tribal et sa manière de perdurer. Il y a l'Iran qui est en train de contester les fondements du... Enfin, la révolte de ceux qui ont faim aujourd'hui et qui contestent en même temps un autoritarisme accru du régime. Donc il y a des États qui s'effondrent, mais il y a aussi des sociétés qui bougent, il y a des mentalités qui bougent. Les jeunes en Iran, 40% au chômage. Le nouveau... Le prince héritier Mohammed ben Salman, lui aussi est très sensible à cette jeunesse saoudienne qui ne trouve pas de travail et qu'on ne peut pas laisser à la maison et payer pour ne rien faire parce que les rentrées du pétrole sont en train de baisser. Voilà, c'est une question qui se pose. Et puis la troisième question dont nous pourrons discuter éventuellement dans le débat, c'est au fond quel type de sécurité, quelle sécurité de la... Comment penser, repenser la sécurité régionale tout entière? On va avoir des États qui se sont fait la guerre, des sociétés qui se sont déchirées. Comment réconcilier les sociétés internes? Quel type de sécurité établir? On a un retournement d'alliance absolument faramineux dans cette région. Pour un politologue, il y a de quoi s'arracher les cheveux. La deuxième armée de l'OTAN, qui est l'armée turque, qui est faite pour... qui était faite durant la guerre froide pour empêcher les Russes de pousser leurs pions dans cette région, au moins dans cette région du Proche-Orient, sont aujourd'hui des alliés des Russes dont l'OTAN est supposée dans sa mission de départ, établie le 4 avril 1949, mais à l'époque c'était l'URSS, c'est vrai, d'essayer de contenir et de colmater les poussées et les avancées vers les mers chaudes. Donc aujourd'hui on a une région à refaire, et c'est pour cela, et je conclue là-dessus, qu'effectivement, année de tous les dangers, oui et non. Non parce qu'on est sorti de dangers, d'une situation absolument épouvantable de guerre en Syrie, en Irak, la guerre continue au Yémen, rien n'est résolu au Proche-Orient, c'est pour ça que non, mais oui, parce que effectivement, tout est devant nous, tout est à refaire, tout est à reconstruire, et c'est cela qu'il faudra observer de près. Merci de votre attention.
Merci. Merci Joseph Maïla pour ces éclaircissements sur ce thème, effectivement, qui n'est pas une question. Le Proche-Orient 2018, année de tous les dangers, thème de ce mardi d'éthique publique au Centre Sèvres. Et je retiendrai trois termes de questions, en revanche, que vous avez posées sur les perspectives qui s'ouvrent. Quelle carte, quelle frontière, quelle société dans tous ces États plus ou moins démantelés, et quelle sécurité globale pour la région? Nous aurons sans doute l'occasion de revenir sur ces trois points dans le débat. Mais j'ai maintenant le plaisir de passer la parole à Mgr Stinger, évêque de Troyes, président de Pax Christi pour la France, qui connaît particulièrement bien cette région et notamment la situation des communautés chrétiennes qui vivent dans ces différents pays et qui ont été parmi les premières victimes de toutes les violences désastreuses qui se sont produites dans ces pays.
Merci beaucoup. C'est bon. Ça marche, oui, voilà. Excusez-moi. Excusez mon retard, d'abord, c'est la SNCF et on est la cause, en fait, c'est pas... Voilà, et pour faire tout de suite la transition totalement artificielle avec ce que vient de dire Monsieur Maïla, il nous a laissé avec Al-Baghdadi à Mossoul. Et moi, je partirai de Mossoul après Al-Baghdadi. Je parlerai principalement d'abord de l'Irak pour commencer, parce que c'est ce que je connais le mieux. Et ensuite, je ferai quelques réflexions un peu plus larges qui dépasseront simplement la question des communautés chrétiennes en Irak. Pourquoi je commence par Mossoul après Al-Baghdadi? Parce que je suis allé à Mossoul 2 semaines après la libération de la ville. C'est du vécu, ce que je vous dis là, du vu surtout, en fait. Ce que nous avons vu était de fait particulièrement horrible. Des quartiers totalement détruits, vous en avez tous vu des images dans les médias, c'est la réalité. Mais non seulement ces quartiers étaient détruits, il n'y avait plus de possibilités de vie, mais ils étaient extrêmement dangereux parce que Daesh était parti en laissant quelques beaux cadeaux sur place. Il nous a d'ailleurs été interdit de circuler dans ces quartiers-là. On peut dire que les djihadistes sont partis et tout le monde s'en est réjoui naturellement, mais ils ont laissé la mort derrière eux. Je crois que ça, il faut le dire très clairement. Et la seule question dont on pourra débattre aussi tout à l'heure, elle rejoint des choses qui ont déjà été dites, c'est qui va donner la vie? Ceux qui étaient là ont donné la mort. Qui va donner la vie aujourd'hui? Alors, je fais tout de suite une parenthèse. Tout président de Pax Christi que je sois, je n'ai pas d'état d'âme sur le fait qu'une coalition internationale soit intervenue. Il fallait cela si on voulait éradiquer le problème djihadiste. Mais la coalition internationale n'a pas apporté la vie, elle a apporté la mort elle aussi. Enfin, il faut regarder les choses en face. Je le dis sans reproche, mais la question demeure aujourd'hui, et c'est la seule qui demeure, c'est qui va apporter la vie à ces populations, à ce pays. Nous devons parler de ça et regarder ça de manière extrêmement claire. Une chose que j'aimerais vous rappeler toujours à propos de Mossoul et de Daesh, bien c'est que si Daesh a pu s'installer à Mossoul, c'est parce que les portes leur ont été ouvertes. Ils ont été favorisés par l'accueil des sunnites. Et encore une fois, si je dis ça, ce n'est pas pour que vous tiriez à bras raccourcis sur les sunnites, mais c'est parce que si les sunnites leur ont ouvert la porte, c'est parce que les chiites avaient fermé la porte aux sunnites. Les chiites avaient reçu le pouvoir des mains des Américains et ils ont exercé le pouvoir à la manière dont on l'exerce dans ces pays du Moyen-Orient, à savoir que c'est la majorité qui a le pouvoir et la minorité n'a qu'à obtempérer. Les sunnites étaient la minorité, ils n'avaient qu'à obtempérer. Ils ont considéré que l'arrivée de Daesh est une sorte, excusez le mot, il n'est pas très à propos, mais j'en ai pas de meilleur pour l'instant, c'était une sorte de bénédiction pour eux. Donc ils ont été plutôt complices de leur arrivée. Il faut aussi se rendre compte de ça. Mais la conséquence de cela, c'est que tous les autres étaient logés à la même enseigne. On a beaucoup parlé du traitement infligé aux chrétiens. Vous rappelez-vous le haine sur les maisons. Enfin, vous avez entendu parler de tout cela. Mais M. Maïla tout à l'heure parlait des Yézidis, les Sabéens. Ils ont tous été maltraités. Nous sommes allés distribuer des vivres dans un camp à Mossoul. Donc après Daesh. Eh bien, c'était tous des musulmans. De toute manière, il n'y avait aucun chrétien à Mossoul quand j'y suis allé la première fois. Il y en a qui sont revenus depuis, mais à ce moment-là, il n'y en avait pas. Alors, les seuls qui pouvaient s'en tirer, c'était ou ceux qui prêtaient allégeance à Daesh, ou ceux qui s'en allaient. Alors, les chrétiens, de ce point de vue-là, étaient un tout petit peu privilégiés par rapport aux autres, parce que la classe chrétienne est une classe plutôt, non pas fortunée, mais qui a des moyens intellectuels, humains, qui a des familles en Occident. Bref, eux ont pu partir Et d'autres n'ont pas pu partir, eh bien ils ont laissé leur vie, ceux qui n'ont pas pu partir. Et ceux qui ont laissé leur vie, c'était pas d'abord les chrétiens, c'était d'abord des musulmans. En fait, c'est des choses qu'il est bon comme de se rappeler, hein, si vous voulez. Mossoul était une grande ville chrétienne, une très grande ville chrétienne, même avec énormément d'églises. Eh bien, comme je vous le disais à l'instant, quand je suis allé là-bas, il n'y avait plus de chrétiens à Mossoul. Et toutes les églises étaient détruites. J'en ai visité 5 ou 6. Elles étaient toutes détruites. Et j'avais une raison particulière, vous me permettrez d'évoquer ce souvenir, une raison particulière d'aller, je voulais aller sur la tombe de l'ancien archevêque de Mossoul, Monseigneur Raho, l'archevêque chaldéen de Mossoul, qui m'avait accueilli en 2008 quand je suis allé avec une délégation, et nous avait accueilli non pas à Mossoul où on ne pouvait pas aller, mais à proximité. Il est mort 3 semaines après qu'il nous ait accueillis. Il avait été enlevé par, non pas Daesh à l'époque, mais c'était Al-Qaïda, et ils l'ont laissé mourir, voilà. Il a fini par être enterré à Mossoul, dans une église de Mossoul. Je voulais aller rendre hommage à son corps. Eh bien, il était impossible de trouver son corps, puisque il était sous des gravats. Enfin, je savais où c'était, mais je n'ai pas pu voir sa tombe, parce qu'elle était complètement obstruée par des gravats. Toutes les églises sont détruites, et ce n'était pas sans raison. C'était pas uniquement le plaisir de la destruction. Ils ont détruit un tas de choses. Hein, c'est pas. Mais il y avait très clairement une volonté d'éliminer systématiquement la mémoire chrétienne. Je dis bien la mémoire chrétienne. Enfin, c'est pas. Nous avons tous été sensibles au fait de la persécution des chrétiens quand Daesh est arrivé. Vous vous rappelez sans doute, je le disais à l'instant, les chrétiens devaient mettre un N sur leur maison. C'était ceux du Nazaréen, les disciples du Nazaréen. Mais c'est important, c'est normal que nous ayons été sensibles au sort de ces chrétiens. Mais si nous ne considérons que les personnes, il faut aussi faire état à ce moment-là d'autres que les chrétiens qui ont été persécutés, comme je le disais tout à l'heure, des musulmans, des yézidis, des sabéens, etc. Mais ce qu'il faut noter en plus, et c'est de ça aussi j'aimerais bien discuter avec Monsieur Maïla justement, c'est que la cible de Daesh, ça a été la mémoire chrétienne. Ça n'a pas été simplement les chrétiens, ça a été la mémoire chrétienne. Le plus grave, c'est pas seulement l'atteinte aux personnes, mais c'est l'atteinte à ce que représente la religion du Nazaréen. Une religion de la tolérance, de la fraternité universelle, à l'opposé de l'idéologie sous-jacente à Daesh. Un islam, c'est un islam, ça vient de l'islam, mais un islam qui n'a rien d'humaniste. Alors la question qu'on peut se poser, évidemment, à partir de là, est-ce que c'est encore un islam, cela, enfin, un islam qui n'a rien d'humaniste? Est-ce que c'est un mauvais produit de l'islam? Ce sont des questions que nous devons poser. Nous devons aller jusque-là, quoi, simplement se dire, bon, ben c'est l'islam qui s'en est pris aux chrétiens. C'est une idéologie qui s'en est prise à la religion, à une religion, à la religion de la tolérance et de l'humanisme. Alors, faut pas oublier, au fond, que les chrétiens, les yézidis, les sabéens et les autres minorités, étaient les anciennes populations de l'Irak. Toutes ces populations sont originaires de l'Irak. Et à ce titre-là, des citoyens à part entière, qui ont toujours, tout au long de l'histoire, rempli leurs devoirs envers leur pays. Donc si aujourd'hui nous prenons conscience, eh bien que c'est tous ceux-là qui ont été maltraités, et c'est tous ceux-là qui ont leur place dans la reconstruction irakienne, il faudra bien trouver, et là j'anticipe un peu sur les perspectives d'avenir, il faudra bien trouver comment le gouvernement irakien pourra prendre sa responsabilité pour les mettre dans la dynamique de cette reconstruction. Alors comment sortir de Daesh ? Eh bien, pour les communautés chrétiennes, ben on ne pourra sortir du Daesh, comme le disait Monsieur Maïla tout à l'heure, qu'avec le retour à une certaine forme de sécurité et de stabilité. Et c'est cela qui sera important pour que l'Irak puisse avoir un avenir. Il ne s'agit pas simplement de se demander comment les chrétiens vont rentrer, faut-il qu'ils rentrent ou pas qu'ils rentrent, mais il faut aussi se demander à quel prix peuvent-ils rentrer en Irak. Eh bien, le prix à payer, c'est le prix que le gouvernement a payé pour assumer, pour traiter tous les grands dossiers qui empêchent, en réalité, une vie stable et sûre dans ce pays. Les grands dossiers, c'est le rapport entre chiites et sunnites, c'est pas le rapport avec les chrétiens. Le grand dossier, c'est le rapport entre chiites et sunnites. Les grands dossiers, c'est la construction d'un état de citoyen. Les grands dossiers, c'est le retour des réfugiés, de tous les réfugiés qui sont partis. Alors, parmi ces réfugiés, moi je vous ai chargé de vous parler des chrétiens. La question des chrétiens est un peu particulière. Comme je disais, ils ont eu le moyen de fuir à l'extérieur. Et ceux qui ne sont pas allés à l'extérieur ont pu aller au moins jusqu'au Kurdistan. Ils ont fui la persécution qui a été initiée par Daesh à partir du moment de son arrivée, les discriminations, les menaces, les expulsions, les spoliations. Alors pour eux, revenir veut dire réintégrer ce qui est à eux. Alors beaucoup de choses sont détruites, hein, de toute façon. Mais de quelle manière pourront-ils retrouver ce qui est à eux? Et ça veut dire une deuxième chose, c'est dans de bonnes conditions. Et c'est cela le grand devoir pour tous ceux qui se préoccupent de l'avenir de l'Irak. Alors, quels sont les obstacles au retour des chrétiens? C'est que depuis un certain temps, les chrétiens se considèrent comme les parents pauvres de la société irakienne. Ils sont, depuis un certain temps, une sorte de monnaie d'échange. C'est eux qui ont le moins de droits dans le jeu entre les différentes factions religieuses. Et il est important qu'une confiance puisse se retrouver, une confiance qui aujourd'hui n'existe pas chez eux. C'est pas simplement une question de sécurité. Je précise tout de suite, c'est une question de reconnaissance. Enfin, depuis un certain nombre d'années, ils ne se sentent pas reconnus. Ceux qui sont partis en 2008, ils ne se sentaient déjà pas reconnus par le régime en place à l'époque. Paradoxalement, ils se sont sentis reconnus du temps de Saddam Hussein. Enfin, alors là, c'est aussi étonnant que ça puisse paraître, mais on pourra en discuter tout à l'heure, si vous voulez, sur cette reconnaissance que leur a donnée Saddam Hussein. Ceci dit, idéalement, on ne peut pas imaginer la reconstruction de l'Irak sans les chrétiens. Ils représentent une richesse culturelle, un patrimoine de valeurs important pour la construction d'un pays moderne. Et le grand défi, je crois, c'est celui-là. Alors, maintenant, ce que je voudrais vous dire, c'est comment on en est arrivé là. Comment on est arrivé à ce drame que M. Maïla a déjà bien évoqué et sur lequel je voudrais revenir un peu de manière générale. Ce qu'il a déjà évoqué, M. Maïla, c'est que, au fond, le drame du Moyen-Orient et des chrétiens du Moyen-Orient prend sa source dans un certain nombre de conflits dont beaucoup dépassent le Moyen-Orient. Vous le savez comme moi, c'est les questions de concurrence entre les puissances mondiales. Je vais pas mal dire ce que Monsieur Maïla a bien dit tout à l'heure. Hein. C'est pas pour la mainmise sur les ressources de la région. Mais ce que je voudrais, etc., sur les luttes internes entre les factions. Mais ce que je voudrais souligner, c'est que toutes les composantes de la société du Moyen-Orient ont été touchées par cette folie. Et à commencer par les différentes communautés religieuses, chrétiennes, musulmanes et juives, que ce soit en Palestine, en Syrie, en Irak, en Libye, au Yémen. Toutes les composantes ont été touchées. Et c'est comme ça que s'explique ce nombre irrépressible de réfugiés, de personnes en situation humanitaire difficile, de déplacés à l'intérieur de leur pays. Je vais juste donner un chiffre. Je précise que ce qui reste comme chrétien en Irak, c'est plutôt de l'ordre de 5 millions, hein, c'est passé. Il n'y en a pas davantage, malheureusement, en fait, c'est pas. En Syrie, il y avait, je parle sous le contrôle de Monsieur Maïla, là, hein, c'est pas. En Syrie, il y avait en 2010 22 millions d'habitants. Eh bien, aujourd'hui, on peut dire que sur ces 22 millions, 13 millions et demi ont besoin d'une aide humanitaire. On en est là, hein, c'est pas. Il y a presque 5 millions qui ont quitté le pays pour se réfugier dans les pays voisins ou en Europe. Et 6 millions et demi qui sont déplacés à l'intérieur de leur pays à cause de la violence. J'ai rencontré des réfugiés syriens au Liban. Le Liban a fait un travail extraordinaire, je ne dis pas ça parce que M. Maïla est là, mais le Liban a fait un travail extraordinaire d'accueil des réfugiés syriens. Et ces réfugiés m'ont dit, mais nous n'attendons qu'une chose, de pouvoir rentrer chez nous. C'est tout ce que nous demandons, on ne veut pas autre chose. Mais dans les conditions actuelles, on ne peut pas. Eh bien, les chrétiens sont parmi les principales victimes de cette situation catastrophique. Je voudrais juste vous lire une déclaration du pape François qu'il a signée avec le patriarche Cyril. Si je retrouve mon papier, évidemment. Voilà. En de nombreux pays du Proche-Orient et d'Afrique du Nord, nos frères et sœurs en Christ sont exterminés par familles, villes et villages entiers. Leurs églises sont détruites et pillées de façon barbare. Leurs objets sacrés sont profanés, leurs monuments détruits. En Syrie, en Irak et en d'autres pays du Proche-Orient, nous observons avec douleur l'exode massif des chrétiens de la terre d'où commença à se répandre notre foi et où ils vécurent depuis des temps apostoliques ensemble avec d'autres communautés religieuses. Ce qui est menacé, c'est la présence plurimillénaire des chrétiens en Orient. Alors pourquoi ce malheur des chrétiens? Pour quelles raisons? Il y a plusieurs raisons. D'abord, ils se trouvent identifiés à l'Occident, contre lequel un profond ressentiment habite les esprits de beaucoup de musulmans depuis la chute de l'Empire ottoman et surtout depuis la création de l'État d'Israël et la naissance du conflit arabo-israélien. Ils sont visés aussi parce qu'ils sont l'élément le plus faible de la société, parfois accusés d'apporter leur soutien au régime en place. Ou alors, ce que j'exprimais tout à l'heure, tout simplement parce qu'ils sont chrétiens, et c'est insupportable pour les éléments les plus radicalisés des islamistes. De grandes attentes, hein, je crois que la tragédie des chrétiens d'Orient ne doit pas nous arrêter. Elle doit au contraire nous faire regarder comment en sortir. Il y a une véritable attente. Les peuples de la région veulent une vie meilleure. Les communautés, qu'elles soient chrétiennes ou autres, ont le désir non seulement d'être reconnues, mais de pouvoir vivre ce qu'elles ont à vivre. Et comment sortir de l'impasse? Comment résoudre cette question difficile? Nous ne pouvons pas en rester au seul constat du drame. Moi, je dirais volontiers que ce que j'ai pu constater, c'est que un des aspects de la crise au Moyen-Orient, c'est une crise de la parole. C'est la parole est possédée par quelques-uns, elle est confisquée à tous. Les chrétiens n'ont plus eu aucune voix au chapitre. Et la parole est muselée, elle est tronquée, elle est mensongère, elle est déconnectée de la vie des gens. Les gens sont habitués à se taire, à ne rien dire. On n'est pas du tout dans une perspective démocratique comme chez nous. Et la conséquence de cela, c'est que la plupart du temps, les communautés se réfugient sur leur espace, se recroquevillent à l'intérieur de leur espace jusqu'à ce qu'on vienne les en expulser. Ça, c'est un aspect de la crise. Il y en a un deuxième que j'ai constaté, c'est qu'il y a quand même aussi au Moyen-Orient une crise spirituelle et religieuse. Les drames de cette région, le rétrécissement de l'espace public, les difficultés économiques persistantes ont fait que beaucoup de personnes n'ont plus que des rites et la tradition de leur communauté comme seul lieu d'affirmation de leur identité humaine et spirituelle. Et ça ne suffit pas pour donner un sens global à une existence. Une autre raison de la crise, précisément, c'est l'imbrication du religieux et du politique. En fait, c'est pas Je suis allé à l'invitation des chiites en plein pays chiite, où nous avons visité des universités, nous avons rencontré beaucoup d'intellectuels, et nous avons pu nous rendre compte que ce qui empêchait d'avancer, c'est cette confusion entre le politique et le religieux. C'est le pouvoir est entre les mains du religieux. Le pays chiite où ça se passe, eh bien, est bâti sur le modèle, c'est ce rapport entre le politique et le religieux, est bâti sur le modèle de ce qui se passe en Iran. Donc il faut arriver à déconnecter le religieux du spirituel. Alors ce que je trouve dramatique, nous avons rencontré beaucoup d'étudiants, des jeunes, qui n'y croient pas. Ils ne croient pas à la possibilité de déconnecter le religieux du politique. Ce qui veut dire qu'ils ne croient pas à l'avenir possible pour eux dans ce pays. Eh bien, c'est un travail qui reste à faire. Il y a deux conditions incontournable pour le faire. Ben le premier, c'est le dialogue avec les musulmans, le dialogue interreligieux. Il faut, chaque fois que c'est possible, permettre des rencontres. C'est ce qui manque totalement, enfin ce que je vous disais de ces jeunes en est un bel exemple, ce qui manque totalement, c'est la confiance pour l'avenir. Enfin, c'est pas, bien la confiance pour l'avenir ne pourra être retrouver que si il y a du dialogue. Et la deuxième chose, c'est que ensemble on se batte pour quelque chose qui en vaut la peine. Mais ce quelque chose qui en vaut la peine, c'est la mise en place d'un état de droit démocratique, respectueux pour chaque personne, un état de citoyen. Les communautés chrétiennes ont une tradition qui leur vient de l'Évangile, et une tradition de séparation entre ce qui est de César et ce qui est de Dieu. Enfin, c'est pas. Et donc, elles sont particulièrement bien placées pour aider à construire cet État citoyen. Et sans cet État citoyen construit avec le consentement de tous, eh bien, il n'y a pas d'avenir possible pour l'Irak. Et il y a peu de chances que les chrétiens qui sont ailleurs rentrent à ce moment-là. Les responsables religieux locaux, à commencer par le patriarche chaldéen, insistent beaucoup pour que les chrétiens reviennent en Irak. Enfin, je sais pas. Et je vous disais, idéalement, le pays a besoin d'eux pour se construire. Mais s'il n'y a pas cette volonté de bâtir un État où religion et politique sont totalement séparés, et où ce qui prévaut, c'est l'état de droit, c'est la citoyenneté pour chacun. S'il n'y a pas cette volonté, il n'y a pas d'avenir possible. Voilà, je crois que je suis dans les temps à peu près.
Merci beaucoup, merci. Merci, Monseigneur, pour ces analyses et surtout pour ce témoignage très, très direct et sans aucune langue de bois sur la situation que vous avez constatée sur place et sur, notamment sur les conséquences des violences et la nécessité de recourir à la violence elle-même parfois pour y mettre fin avec tous les engrenages que cela peut créer. Alors, nous allons avoir un temps d'échange avec la salle. Est-ce que Joseph Maïla, vous vouliez rapidement intervenir parce que vous avez été interpellé à plusieurs reprises par Mgr Stinger, donc répondre avant que nous passions la parole à la salle aux questions qui vous ont été soumises.
En trois temps, chaque temps une minute. Bon. Alors, la première question à laquelle qui a été posée avec lucidité, détermination et grande intelligence, l'éradication du patrimoine chrétien dans la région de Mossoul, qui est un des plus anciens lieux de la chrétienté, avec des témoignages absolument extraordinaires de prêtres qui sont arrivés à sauver l'héritage de ce qui était à cette époque-là, bon, une terre de nestorianisme. Il faut revenir un petit peu à ça, qui était cette histoire du Proche-Orient, mais qui a laissé des traces sur le plan du patrimoine, sur le plan des pères de l'Église, des écrits qui sont absolument qui marquent le fondement de la doctrine chrétienne qui était en élaboration. Et puis il ne faut pas oublier que c'est à partir de l'Irak que les chrétiens, à la suite de saint Thomas l'apôtre, se sont élancés vers l'Inde et vers la Chine. Les Malabar, les Malankar font partie de cette poussée à partir de... Et celle-là, effectivement, est absolument dramatique. La volonté d'effacer la mémoire, les signes, l'existence est incroyable avec ce haine nazaréen qui horripile. Mais alors, ce que l'islam radicalisé d'Abou Bakr al-Baghdadi, qu'il ne faut pas généraliser au plan de l'islam général, a réussi à faire, c'est, moi je le ressens, j'allais dire atrocement, c'est de faire passer des populations qui sont les premières populations de ce pays, des autochtones, des populations qui vivaient là 600 ans avant que les troupes, la conquête islamique est arrivée en Irak en 636. Donc il y avait 600 ans de christianisme qui était dans cette région, faire passer ces peuples autochtones pour des étrangers. En disant, mais vous êtes chrétien, qu'est-ce que vous avez à faire ici? Il n'y a pas de chrétiens, ici c'est une région musulmane. Alors que ce sont les premiers habitants, ils portent l'identité profonde du pays. Le deuxième point sur lequel la question a été posée par le père Stinger, les obstacles au retour des chrétiens. Et le père Stinger a bien pointé cette idée de la reconnaissance. Mais ça se pose aussi pour les chiites. Mais disons que ce soir, on se focalise un peu plus sur... c'est sur la reconnaissance. Et donc c'est le caractère de pluralisme, la reconnaissance du pluralisme comme fondamental pour la mosaïque du Proche-Orient qui est absolument nécessaire. C'est là où il faut avancer. C'est là où effectivement, quand j'ai pu travailler au Quai d'Orsay, on mettait en avant cette idée de la reconnaissance du tissu sociétal pluriel. On vient de faire dans une association à laquelle appartient, et qui l'a fondée, avec d'autres, le père Stinger, avec Pharos, nous avons fait un colloque à Beyrouth où nous avons milité pour, en université, plaider pour la cause du retour du pluralisme, que ces gens, que toutes ces communautés puissent se parler, et que surtout, on puisse, au niveau politique, répercuter le pluralisme sociétal en termes de droits. C'est pas normal qu'en Irak, il n'y ait pas de députés chrétiens. Il y en a, hein, mais vraiment, ils se comptent sur le bout des doigts. Ce n'est pas normal qu'en Égypte, alors que l'Égypte a 8 millions ou 10 millions de Coptes sur 86 millions d'Égyptiens, à chaque fois, c'est le pouvoir qui nomme les Coptes, parce que si on laisse jouer le pluralisme, un homme, une voix, les Coptes disparaissent. Et c'est là où le père Stinger avait raison en disant, Saddam Hussein, Hafez al-Assad père, qui a été une des pires dictatures que l'on puisse imaginer, et Assad père fils, protège les chrétiens. Alors je mets les protège avec 36 guillemets, hein, tous les guillemets qu'il faut, mais effectivement c'est une coalition des minorités. Bon. Et le troisième point qu'on ne résoudra pas ce soir, qui est absolument crucial, c'est au fond le devenir de l'islam dans cette région. Parce qu'effectivement, ceux qui tiennent le haut du pavé et de la radicalisation précisément sont ceux qui sont radicalisés. Et donc on a affaire à un islam qui est devenue une idéologie pour certains, j'insiste beaucoup, pour certains qui aujourd'hui ont pris les armes. Ce sont des salafistes, ce sont des salafistes djihadistes. On enseigne tout ça, mais tout ça, c'est il y a une espèce de forêt aujourd'hui. Et qui veut dire une chose, qui veut dire que ce n'est pas l'islam triomphant qu'on peut imaginer en disant ah mais l'islam avance, l'islam parle. Au contraire, c'est un islam qui se cherche et qui ne sait pas sur quel point de doctrine s'arrêter, et avec une tendance au littéralisme, avec une haine de l'Occident qui fait qu'effectivement on veut se prendre sa revanche sur la création d'Israël, sur la domination occidentale. Pour beaucoup de gens, la mondialisation, c'est une occidentalisation, et donc on se prend à l'Occident, et les chrétiens, comme vous l'avez signalé, ben, sont assimilés à cet Occident, alors qu'ils sont tout ce qu'il y a de plus oriental en Orient.
Commençons peut-être avec la question de nos auditeurs de Bordeaux.
De Bordeaux, oui, effectivement, il y a eu beaucoup de questions, notamment sur qu'est devenu le califat, et est-il toujours un objectif de la coalition ? Et une question autour de la nation kurde, est-ce qu'il ne faudrait pas la créer ? Est-ce qu'il demanderait des remaniements de frontières ?
Joseph Maïla.
Oui, très rapidement, qu'est devenu le califat ? Alors, le Premier ministre... le Premier ministre, Abadi, le 9 décembre, a déclaré que le califat avait été détruit totalement en Irak. Donc l'idée que le califat puisse exister comme institution, celle-là a disparu. Ça ne veut pas dire que les djihadistes ont disparu. Donc c'est une manière de dire qu'effectivement la coalition est arrivée à bout de cette construction qui a tenu ce qu'elle a tenu pendant 3 ans. Donc le califat, on peut estimer que comme organisation, comme territoire, comme institution, a disparu. Mais les bases, j'allais dire les ressources humaines et les djihadistes sont là dans la région, ils sont disséminés un peu partout et tôt ou tard, il va y avoir, ce n'est pas être grand clerc ou grand prophète que de pouvoir annoncer la restructuration de ces troupes éparses. On sait que la France a 500 à 700 djihadistes d'origine de nationalité française qui sont dans la région. Là aussi, bon, il y a d'autres nationalités, des Tunisiens, des Pakistanais, des Indonésiens, des Malais. C'est une affaire immense hein, qui s'ouvre. Et la deuxième question, c'est effectivement la question sur les Kurdes. Alors là, la question des Kurdes, elle est mal partie. Ils se sont battus. La coalition était une coalition aérienne essentiellement, exclusivement, bien qu'il y ait quelques troupes, bien entendu, au sol occidental pour diriger les frappes. Mais ce sont les Kurdes qui ont fait l'essentiel du travail, avec l'armée irakienne aussi. Et l'armée syrienne a récupéré des choses aussi dans l'Est, à Deir ez-Zor, à Raqqa. Mais les Kurdes ont véritablement porté le fer. Et c'est eux qui ont éliminé les djihadistes. Ils veulent aller plus loin. Et l'Occident et les Américains notamment, mais pas seulement eux, qui les avaient encouragés à se battre contre l'État islamique, les ont laissés tomber platement. À cause des Turcs, à cause des Irakiens, à cause des Iraniens, à cause des Syriens. Aucun de ces États ne peut imaginer, et ça peut s'imaginer comme ça quand on est froidement assis autour d'une table, céder une partie de son territoire pour créer une nation kurde. Pourtant, c'était le but du traité de Sèvres du 10 août 1920, donc signé dans la banlieue française, on avait prévu de créer une nation. Pour les Kurdes, une nation qui n'a jamais vu le jour, et aujourd'hui ils sont disséminés, mais c'est une question qui va reprendre. Surtout que un nationalisme ethnique ne se nourrit toujours de ses défaites. C'est-à-dire que les défaites alimentent le combat, la lutte, et qu'une défaite n'est jamais... On a un peu la même dynamique chez les Palestiniens. Ce n'est pas parce qu'ils ont réussi, ils ont échoué une fois, deux fois, 10 fois, 3 fois, 30 fois qu'ils abandonnent la partie. Et là, ça va revenir. Et il y a une responsabilité de l'Occident, non pas en tant que tel directement, mais véritablement à faire entendre la parole du pluralisme et la reconnaissance d'une place pour les Kurdes au gouvernement de la région, notamment, je pense, à l'Irak, qu'ils ont aidé à se libérer, je veux dire, avec ces... L'Irak s'est libéré avec un appui très fort apporté à l'armée irakienne de la part de la coalition.
Alors je vous propose que nous prenions 3 premières questions dans la salle. Il y a un micro devant, ici, madame.
Je vous remercie. Monseigneur Stinger a déclarer que dans les pays du Moyen-Orient, ceux qui ont la majorité ont le pouvoir. Ça n'a pas été le cas en Irak. Les chiites avaient été brimés. C'est pour ça qu'ils se sont après vengés. Et surtout, leur chef était devenu paranoïaque. Et il y a cet élément. Et après, parce que vous parlez de l'islam en présentant l'islam, pourquoi elle est radicalisée. Mais on a la mémoire courte. On oublie que durant la guerre froide, l'Occident a misé sur la religion pour contrer le communisme et par ailleurs pour affaiblir les régimes laïcs qui étaient inféodés ou alignés un peu à l'Union soviétique. Et donc, l'Iran inclus, les États-Unis ont soutenu, aidé la prise du pouvoir des religieux. Alors, après, vous avez évoqué la question qui va refaire la carte. Est-ce que l'Occident a changé de politique ? Non. Les États-Unis continuent à soutenir l'Arabie saoudite, qui est le représentant du wahhabisme, la secte la plus radicalisée et qui a été à l'origine du wahhabisation de l'islam mondial. Et en Occident, si on a ces problèmes, des banlieues et tout ça, c'est parce que l'islam a été wahhabisé et ils ont perdu les originalités ou qui étaient beaucoup plus pacifiques. On ne peut pas ignorer, et si on continue à les soutenir, comment voulez-vous que ça change?
Merci. Une deuxième question? Non. Alors, Monseigneur Stinger, vous avez la parole pour répondre aux deux premières parties de la question de madame.
Oui, mais j'entends bien ce que vous voulez dire, et c'est vrai, je pense que là aussi, Monsieur Maïla pourra en dire bien plus que moi, c'est que on a les puissances occidentales se sont bien ingéniées à instrumentaliser des catégories religieuses au bénéfice de leur propres intérêts, enfin de leur recherche géopolitique, hein, c'est passé. Ça, c'est tout à fait exact. Mais alors, moi, j'aimerais qu'on distingue justement, hein, si vous voulez, quand je dis que qu'il y a une radicalisation de l'islam, j'ai pas dit que l'islam tout entier s'est radicalisé. Il y a des catégories dans l'islam qui se sont radicalisées et qui sont radicalisées. Des catégories où je disais à propos de Daesh d'ailleurs que l'idéologique et le religieux se sont mélangés. Enfin, c'est pas, on ne peut pas dire que ce n'est que idéologique et pas religieux. Il y a des musulmans qui aiment bien dire, mais ça, c'est pas l'islam. Je comprends qu'ils ne s'y reconnaissent pas, parce que de fait, pour eux, ce n'est pas l'islam. Mais c'est des catégories de l'islam là qui ont été radicalisées. Donc, à partir de là, je pense qu'il y a deux choses qui sont importantes à dire. C'est cela qu'il faut extirper. Mais c'est très difficile. Enfin, Monsieur Maïla parlait tout à l'heure du djihadisme rampant, enfin, qui existe actuellement. Et la deuxième chose, c'est ce que j'ai dit à la fin, à savoir que des pays comme l'Irak ne s'en sortiront que s'il y a un dialogue avec l'islam, s'il y a un dialogue de toutes les catégories de religion, y compris de ceux qui sont sans religion, pour créer un État citoyen. Et là, l'islam a sa part aussi. Et c'est dans la mesure où ce dialogue pourra se faire. Mais j'ai rencontré à Bagdad une institution extraordinaire, c'est le centre de dialogue des religions, je crois que ça s'appelle comme ça. Alors là, tout le monde est dans ce centre. Toutes les variétés d'islam, sauf les extrémistes, bien entendu, les différentes minorités, tout le monde, et même des personnes qui ne se réclament d'aucune religion, enfin, je sais pas. Et eux sont en train d'essayer de réfléchir à la mise en place d'un État citoyen. Voilà. Donc, distinguons bien les choses, hein. D'un côté, le radicalisme qui est le fait d'une catégorie de gens, et de l'autre côté, la nécessité de construire un État laïque, disons laïque, pour pas prendre nos catégories. Enfin, ça correspond pas tout à fait à leur catégorie à eux, mais un État citoyen avec toutes les catégories de religieuses, y compris ceux qui sont sans religion.
à la question sur le wahhabisme, mais je voudrais moi vous poser une question d'ordre démographique pour compléter, parce que il y a un lieu commun qui traîne, qui est de dire que dans l'ensemble de l'islam, il y a 90% de sunnites et 10% de chiites. Les chiites disent que c'est plutôt 85-15, mais enfin bon, c'est autour de cela. Mais ça, c'est dans l'ensemble de l'islam. Mais dans la région du Proche-Orient, le rapport entre chiites et sunnites démographiquement, il n'est pas du tout de cet ordre-là.
Non.
Il est plutôt de moitié-moitié, non?
Oui, je commencerai par répondre à votre question. Effectivement, sur le 1,2 milliard de musulmans dans le monde, d'abord, il doit y avoir 100 millions d'Arabes en tout et pour tout, sur un milliard deux, disons qu'il y a 150 millions à 200 millions d'Arabes. Donc, la majorité des musulmans ne sont pas originaires du Proche-Orient ni de l'Afrique du Nord, mais la plus grande nation musulmane, c'est l'Indonésie. L'autre grande nation, c'est le Nigeria, le Pakistan. Il y a 150 millions de musulmans indiens sur le 1,3 milliard d'Indiens. Donc, on se focalise sur cet islam du Proche-Orient, alors que la démographie de l'islam est asiatique, hein, de plus en plus aujourd'hui. Et donc au Proche-Orient, on a 80% des 88 millions d'Iraniens qui sont chiites. Il y a 12 à 17 millions de chiites saoudiens. Et il y a 60% de chiites irakiens. 60% de chiites irakiens, il y a 35% de chiites libanais. En tout et pour tout, effectivement, on doit approcher les 110-120 millions, mais effectivement, au Proche-Orient, on peut dire qu'on a abouti à un équilibre. Si on exclut la Turquie, si on intègre l'Iran, si on exclut la Turquie, tout l'Afrique du Nord, l'Égypte, sont à immense majorité sunnite. Donc on est et c'est pour cela que qui est le minoritaire de qui et qui est le majoritaire de qui les chiites irakiens sont majoritaires en Irak, mais ils sont minoritaires dans l'ensemble du Proche-Orient qui inclut l'Égypte et l'Arabie Saoudite. Donc voilà, c'est des jeux absolument subtils, mais le malheur de cette région, c'est qu'on est revivifié, qu'on soit revenu à ce conflit qui ressemble à celui des protestants et des catholiques de jadis, hein, de l'époque des guerres de religion, et où il n'y a pas d'issue, hein, parce que les doctrines ont suffisamment divergé pour qu'on ne voit pas d'unification possible assez rapidement. Mais c'est surtout l'exégèse, hein, la manière d'interpréter l'islam qui est la plus importante. Et ce que disait le père Stinger sur cette fondation dirigée par Sistani sur le dialogue des religions est absolument unique. Le Liban est habitué au dialogue des religions, mais là, l'Irak a institué véritablement un centre. Je constate aussi que beaucoup d'ulémas saoudiens sont en train d'évoluer sur ces questions-là. Et là, madame, on revient à la question du wahhabisme. Alors, vous avez raison, mais rentrer dans le dilemme ou la question, ce qu'on appelait la question d'Orient, au 18e, 19e siècle, la question d'Orient, c'était les puissances occidentales qui avaient instrumentalisé les communautés chrétiennes du Proche-Orient pour, comme disait le père Stinger, servir des intérêts qui étaient politiques. Et donc là, effectivement, on verrait cette politique inversée. La dernière question d'Orient, c'est celle des États-Unis qui ont utilisé Oussama Ben Laden en lui donnant des armes pour qu'il combatte le pouvoir russe, le pouvoir en place en Afghanistan à cette époque-là, c'était instrumenter l'islam et effectivement pour chasser les Russes qui occupaient l'Afghanistan à partir de 1979. Donc c'est toujours cette politique à bascule qui finalement ne mène à rien, mais qui font partie du rapport de force mondiale. Alors sur le wahhabisme, oui, c'est vrai que le wahhabisme a représenté pendant longtemps cette interprétation littérale de l'islam, non pas à partir de Mohammed Abdel Wahhab, mais aussi de cette école littéraliste qui fait partie, une des quatre écoles, qui est l'école Hanbalite. Mais disons que le soft power saoudien a fonctionné en termes de création de mosquées, notamment en Afrique, de diffusion de Coran, d'influence exercée par là. Mais je ne dis pas ça à la décharge des Saoudiens, mais ce sont sans doute le courant salafiste wahhabite qui s'est radicalisé. Mais il ne s'est pas radicalisé majoritairement en Arabie Saoudite, bien que l'Arabie Saoudite ait été impliquée dans ça. Simplement, rappelez-vous que le 11 septembre, sur les 19 terroristes du 11 septembre, 15 étaient de nationalité saoudienne. Donc on a pu effectivement mettre ça en avant. Mais aujourd'hui, le développement d'Al-Qaïda, dont le numéro 2 est égyptien, après la mort de Ben Laden, et la multiplicité des groupes est en train d'échapper à cela. Et il faut voir peut-être quelque chose, regarder un peu de manière un peu positive sur les transformations aujourd'hui de Mohammed Ben Salman, bien qu'il y ait de grands points d'interrogation sur lesquels on puisse s'autoriser, mais la conduite des femmes sera permise aux partenaires, les femmes pourront conduire en juin. Aujourd'hui, il y a eu un décret qui a été pris pour qu'elles puissent assister à des matchs de football. Je n'ai pas compris pourquoi ils n'ont pas autorisé directement la formation d'équipes féminines, mais ça va venir peut-être de football. Mais disons qu'il y a un début d'ouverture qui est en train de se manifester. Le pouvoir saoudien a compris les limites de sa politique. Bon, mais ça va être lent. C'est pas quelque chose, et c'est quelque chose aussi où le retour du bâton peut être absolument incroyable. Il n'est pas sûr que le réformisme de Mohammed Ben Salman gagne à long terme. Pas sûr du tout. Les résistances sont extrêmement fortes.
Une question ici, on prend ces deux questions, monsieur, puis monsieur.
Bonsoir, je me présente Ego Fares, je suis syrien, résident en France. Ma question est suivante, moi je qualifie la situation...
Pouvez-vous parler bien dans le micro, s'il vous plaît.
D'accord, moi je qualifie la situation au Moyen-Orient d'impasse historique, c'est-à-dire devant des régimes autoritaires, dictatoriaux et... avec une corruption, même en une vol de toutes les institutions d'État, et il n'y a pas de volonté de réformer. Et on dit, en plus, on fait l'islamisme comme épouvantail. Et c'est vrai, je ne dis pas, ce n'est pas vrai. Je dis, mais ces régimes alimentent aussi cet islamisme en s'attaquant seulement au courant laïque, libéral, civil. Voilà. De l'autre côté, chaque fois il y a des manifestations dans la rue, c'est la guerre civile qui est dans la perspective. Parce qu'il y a une sociologie, pas comme en Occident. Il y a le discours nationaliste, mais le tissu social il n'est pas national. C'est-à-dire, en Syrie, nous, on a vécu 40 ans de discours nationaliste. Mais on sait bien, entre quatre murs, on est chrétien, on sait bien qu'on n'est pas citoyen, on ne peut pas accéder. S'il y a des ministres, il y a deux. Jamais il y a eu un ministre des ministères, comme on dit, les grands ministères. Ça veut dire les défenses. Seulement après le soulèvement syrien, on a mis ce monsieur qui a été... assassiné. Je me situe par rapport à la France, à l'Occident. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si on applique la morale et les puissants ici par les partis qui soutiennent des interventions, il y a catastrophe. On a vu l'Irak, Libye et la Syrie. Si on se situe par la raison, je veux dire, aussi ces dirigeants au Moyen-Orient, ils ne donnent pas l'occasion pour qu'on puisse les aider à réformer le pays.
Merci. Voilà, ma question est là. Merci beaucoup. Monsieur, vous vouliez poser une question?
Oui, pardon. Bertrand Besançon, je suis diplomate. Monseigneur, vous avez souligné le poids politique des autorités religieuses dans la communauté chiite. Alors, je crois que c'est un point important et j'aimerais si vous pouviez le développer un petit peu, parce que si nous partageons tous, je crois, votre vision d'un État irakien laïque ou citoyen, enfin appelons-le comme on veut, mais où il y a une majorité de chiites dans le pays, Si vraiment le pouvoir des religieux reste aussi puissant, ça pose un problème pour une construction de type laïque. Donc j'aimerais beaucoup vous entendre un peu sur sur ce pouvoir religieux dans les communautés chiites. Merci beaucoup.
Vous commencez par répondre à cette question et puis Joseph Maïla reprendra la vôtre ensuite.
Je répondrai à la question en faisant référence à l'Iran. Au fond, l'Iran qui est le modèle de cela, enfin, puisque le pouvoir religieux, c'est le pouvoir ultime qui s'impose, y compris à tout le pouvoir politique. Donc, on en a une illustration. On peut regarder ce que ça donne. Enfin, dans ce que je perçois de ce que ça donne, le professeur Maïla pourra en dire davantage là-dessus aussi, c'est dans ce que je perçois de ce que ça donne, il commence à y avoir une protestation majeure contre cette situation. Et là, je refais référence aux jeunes dont je parlais tout à l'heure, donc des étudiants, pour qui casser ce lien entre le pouvoir religieux et le pouvoir politique, pour eux, ce n'est pas possible. Ils n'y croient pas, ils ne croient pas que les religieux accepteront de lâcher le pouvoir politique et de donner son autonomie au pouvoir politique. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit aussi catégorique que ce qu'ils disent. C'est des jeunes qui s'expriment, ce qu'ils perçoivent, ce qu'ils ressentent. Parce que dans le chiisme, il y a déjà des hommes de pensée, de religion, qui sont favorables à ça, qui défendent ce point de vue. Il faut que le pouvoir religieux se replie dans l'ère religieuse et abandonne l'ère politique. Non pas en disant que les politiques n'ont qu'à se débrouiller, mais en favorisant un pouvoir politique où chacun a son mot à dire, enfin où toutes les parties qui sont en présence peuvent intervenir. Alors moi, ce que je constate, parce que j'ai rencontré quelques dignitaires chiites, quelques hauts dignitaires, je dirais même chiites, ce que je constate, c'est qu'ils ont une autorité extraordinaire, hein, extraordinaire. J'ai le sentiment que il n'y a rien de cette autorité qui leur sera enlevée s'ils ne prétendaient pas au pouvoir politique, tel que je les ai perçus moi. Mais c'est un regard d'occidental ce que je suis en train de vous dire là. Hein. C'est pas, c'est, je crois que l'autorité de ces, on appelle ça des marjas, en fait, c'est des grandes familles, les grandes familles religieuses, c'est vraiment le dessus du panier, si je peux m'exprimer ainsi. Leur autorité vient de leur expérience religieuse, de leur étude des livres sacrés, de leur connaissance en la matière, et mais aussi du fait qu'ils se sont engagés. Alors là, pour le coup, dans le domaine politique, puisque beaucoup de ceux-là ont été en prison, du temps de Saddam Hussein en particulier, ils ont été en prison parce que Saddam craignait leur influence politique, précisément. Et donc, ils auront nécessairement une influence politique, comme des sages ont une influence politique, de toute façon, ça on ne peut pas l'exclure. Mais c'est le système qui allie le religieux et le politique, qui est un système pervers et qui empêche l'avenir. Voilà, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais c'est ça que j'ai perçu moi en fait. Et j'ai vraiment de la peine, et j'ai de la peine pour ces jeunes qui n'y croient pas. Ils disent on n'a pas d'avenir, on n'aura pas la voix au chapitre puisque le pouvoir est accaparé.
Merci, Joseph Maïla. Alors, la question que monsieur posait, morale ou réelle politique, on dit que Henry Kissinger comparait Assad père, Hafez, à Bismarck. Hein, il disait que c'était le Bismarck du Proche-Orient. Alors, quelle est la chance de l'éthique dans le règlement de ces conflits par rapport à la réelle politique aujourd'hui?
Écoutez, si on veut jeter un regard froid, on dira que c'est la réelle politique qui l'emporte. Kissinger était encore plus cynique lorsque la guerre a éclaté entre l'Irak et l'Iran dans les années 80-88. On demandait à Kissinger qui voulez-vous qui gagne, l'Irak de Saddam Hussein ou l'Iran de Khomeini. Et après avoir beaucoup réfléchi, il avait répondu « Dommage qu'ils ne puissent tous deux perdre ». Donc effectivement, on est toujours en train d'instrumentaliser. Mais je voulais revenir sur la question qui a été posée au père Stinger sur le chiisme. Effectivement, vous avez rencontré des gens qui sont des marjas, des références, de grandes autorités religieuses, qui ne participaient pas ou ne partagent pas toute l'idéologie religieuse de la cléricature iranienne qui, elle, est pour le gouvernement des clercs. Et donc c'est en Irak qu'il y a eu le plus grand nombre de résistants, entre guillemets, à cette école qui voulait accaparer le religieux et le politique. Mais aujourd'hui, il me semble que les chiites d'Irak sont un peu prisonniers du pouvoir iranien. Et donc ceux qui avaient encore quelques latitudes pour revenir sur votre idée qui est très juste, il y avait une séparation du religieux et du politique dans l'islam chiite, aujourd'hui ceux-là se taisent, ils craignent l'influence de l'Iran, l'Iran qui a non seulement une influence sur les clercs, mais qui a une influence sur l'Irak aujourd'hui, point de vue politique. Alors vous avez raison, monsieur, de poser la question de la marginalisation des chrétiens. C'est vrai que à l'époque de Saddam Hussein, le ministre des Affaires étrangères s'appelait Tariq Aziz. On se souvient de lui et il était chrétien. Le secrétaire d'État, il n'a jamais été ministre des Affaires étrangères du président Anwar Sadat en Égypte, s'appelait Boutros Ghali et il était copte. Et donc ces pouvoirs qui étaient des pouvoirs nationalistes. Baasis, c'est-à-dire laïcisé, pour ne pas dire laïque, parce qu'il n'était pas laïque, mais enfin, qui ne mettait pas l'accent sur l'islam, mais qui mettait l'accent soit sur le nationalisme égyptien, soit sur le nationalisme arabe de manière plus large, ont donné leur chance aux chrétiens. Mais depuis la défaite de 1967, la montée de l'islamisme, il est devenu extrêmement difficile aux chrétiens de faire entendre leur voix, et les régimes qui étaient plutôt sympathiques avec les chrétiens, parce que c'était des minoritaires, le président Assad était minoritaire, il avait besoin de cette autre minorité qui s'appelait les chrétiens, le président Saddam Hussein était minoritaire sunnite, représentant 20% de sunnites arabes, les autres 20% de sunnites étaient kurdes, avaient besoin de chrétiens. Donc effectivement, il protégeait, encore une fois, entre guillemets, les chrétiens. Mais avec la montée de l'islamisme, de la démagogie qui va avec, les pouvoirs politiques ont sauté à pieds joints dans l'islamisme en se disant que la tendance était là. Effectivement, les chrétiens ont été encore plus marginalisés. Mais je voudrais revenir sur l'idée forte sur laquelle a insisté le père Stinger en disant que du dialogue des religions, il peut naître beaucoup de choses. Pour avoir l'honneur d'avoir préparé la visite du pape François en Égypte, on sait, donc on a été envoyé en éclaireur pour voir avec le cheikh Dalazar sur quelle base on pouvait discuter. Et il y a eu cette discussion sur la guerre sainte. Et dans la région, il n'y a que ça. On n'entend que ça, la guerre sainte. Et le pape François, en se rendant en Égypte récemment, il y a 6 mois, a eu cette phrase extraordinaire, surtout dans le milieu arabo-musulman dans lequel il s'est rendu. Il a dit « Il n'y a pas de guerre sainte, il ne peut pas y avoir de guerre sainte ». Mais on s'adresse, vous voyez le contexte, hein. Il ne peut pas y avoir de guerre sainte, il n'y a que la paix qui est sainte ». Et là, c'était effectivement phrase qui a beaucoup fait parler, qui a beaucoup ébranlé pas mal, beaucoup de conscience.
Vous vouliez réagir, Monseigneur, à ce que disait Joseph Maïla.
Oui, c'est juste pour confirmer ce qu'a dit Monsieur Maïla tout à l'heure. En fait, c'est pas une illustration vécue là aussi. Le dernier jour de notre présence chez les chiites, en fait, à Najaf, un des marjas nous a organisé une soirée pour nous. On était entre nous, hein, avec lui, quoi. Enfin, voilà. Et il nous a dit là que lui, il était absolument favorable à la séparation entre le religieux et le politique. Alors nous lui avons dit, mais vous diriez ça en public? Il a dit, bien non. Voilà.
Alors, normalement, nous avons terminé depuis déjà 5 minutes, mais vu l'intérêt des débats et de ces échanges, on peut prendre peut-être une dernière question. Ce sera la toute dernière. Tout au fond, monsieur, là-bas, vous levez bien haut le doigt, s'il vous plaît, qu'on vous donne un micro. Ce sera la dernière question.
Dernière question, avocat Jean-Baptiste Arelimana. Ma question, ça veut dire sur le, se fonde sur le cas de Yémen. Ça s'adresse à M. Maïla. Est-ce que vous pensez que la mort de l'ex-président en décembre dernier peut ouvrir une nouvelle porte, une nouvelle page pour le Yémen en particulier et pour le Moyen-Orient?
J'aurais voulu être positif ou vous répondre, bien que ce ne soit pas tout à fait la manière de raisonner habituelle, que l'assassinat de l'ancien président, l'ancien dictateur du Yémen pouvait ouvrir une voie. Au contraire, je crois que c'était quelqu'un qui s'était allié aux houthistes et qui a été, qui s'est réaligné sur les Saoudiens. Et donc les houthistes l'ont éliminé de manière atroce récemment. Mais le pouvoir saoudien s'est repris et se rapproche actuellement des frères musulmans yéménites du groupe qui s'appelle Al-Islah, la réforme, pour encore mieux embrigader les partis dits islamiques contre la rébellion houthiste. Donc je suis assez pessimiste sur les possibilités d'un compromis. Ceci dit, il y a une médiation, mais elle ne donne rien pour le moment. Et non, les protagonistes sont certains, l'un et l'autre, qui peuvent gagner la guerre, qui peuvent venir à bout de la résistance de l'autre. Et tant que cette idée est enracinée, on ne voit pas comment on peut arrêter le cycle de la violence.
Merci, merci Monseigneur pour votre témoignage. Et pour... Merci aussi d'avoir trouvé un train pour nous rejoindre. Et merci à Joseph Maïla pour ses analyses toujours aussi passionnantes. Et merci de votre attention.